Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Eh bien, bonjour à tous, il est 7h02, nous sommes ravis de vous voir vous entendre. En tout cas, on est ravis pour cette matinale du 25 juin 2021. Nouveau MAG de l'IMO, on approche bientôt de l'été, j'espère que vous allez bien. Toutes et tous, on sort un petit peu du tunnel avec la fin du confinement et la reprise de nos activités. Je suis accompagné, comme il est de tradition, avec notre super journaliste Johanna Zilberstein. Comment ça va, Johanna ?
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Ben, voilà. Ça va bien, en forme.
Voilà, vous ne la voyez pas encore, mais croyez-moi, ça va venir. Elle est superbe sur le plateau. Ça va, Johanna, alors ?
Très bien.
Bien, toujours bien. Alors, dans ce MAG de l'IMO, une heure d'information, comme d'habitude, et dans quelques minutes, nous évoquerons avec Laurent Girometti, je vais quand même y arriver, le nouveau livre publié par EPAM Marne, entièrement écrit par des enfants. On évoquera aussi la transformation des bureaux en logements, et vers 7h45, nous retrouverons Jean-Michel Royot et sa start-up de la semaine. Tout cela avant de lancer notre portrait du jour. Et aujourd'hui, Johanna, nous recevons...
Et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir celui qui est désormais président de la Fédération Française du Bâtiment, la FFB, depuis un an, quasiment jour pour jour, puisqu'il a pris ses fonctions le 12 juin 2020. C'est Olivier Salleron qui nous rejoindra sur ce plateau.
Et oui, dès 8h, voilà, il sera aussi en image. Voilà le sommaire fourni de cette matinale du 25 juin. C'est parti pour votre MAG de l'IMO.
Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et à 7h04, Sylvain, vous le disiez hein, il y a quelques secondes, c'est une première hein, dans l'histoire des aménageurs. EPAM Marne, EPAM France vient de publier un recueil de nouvelles écrites par des enfants. Le sujet, c'est l'aménagement, bien sûr. Retour sur la jeunesse du projet avec Laurent Girometti, le directeur général d'EPAM Marne, EPAM France, au micro d'Élodie Rabel.
Bonjour Laurent Girometti.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'EPAM Marne EPAM France. Vous publiez Septième défi, un recueil de nouvelles imaginées et coécrites par trois classes de CM2. C'est ainsi singulier. Et le sujet de ce recueil, c'est l'aménagement d'une ville durable. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi vous avez fait appel à des enfants ?
Alors, l'origine de la démarche, c'est que fin 2019, les conseils d'administration d'EPAM Marne et EPAM France ont adopté le projet stratégique des établissements, alors qui est basé sur des défis. Il y en a 6, justement, c'est pour ça que le recueil s'appelle le 7e défi, qui sont la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, donc le climat, la mobilité, la cohésion sociale et territoriale, la santé, la nature en ville et l'innovation. Alors, si ces sujets-là sont pour nous, je dirais, des sujets qui sont assez quotidiens, hein, qui font partie de notre travail de tous les jours, qu'on retrouve dans nos opérations, dans nos marchés publics, dans les consultations qu'on fait auprès des promoteurs, notre objectif, c'était d'essayer de les rendre plus accessibles, finalement, de faire toucher du doigt ce que c'était. Et c'est vrai que le fait de se rapprocher des enfants a été assez naturel parce que la thématique de la ville vue à hauteur d'enfant était justement un peu notre axe vis-à-vis de ce projet stratégique en se disant ben, on construit la ville pour demain et finalement les ambassadeurs ou les représentants de demain c'est bien les enfants. Donc là il y a eu cette volonté de se dire mais comment on peut partager et parler un peu de tous ces sujets qui peuvent paraître un peu compliqués à des enfants et à des enfants qui habitent le territoire, qui y grandissent et qui d'ailleurs habitent fréquemment des quartiers que le PA a contribué à fabriquer, voire qui vivent à proximité de chantiers d'une ville qui est encore en train de se fabriquer.
Et donc, alors, voilà qu'est-ce qu'ils nous disent, ces enfants, dans leurs histoires ?
Alors, justement... Ce qui est vraiment intéressant dans ces histoires, c'est qu'ils montrent que les sujets dont on parle, là, c'est des sujets très, très quotidiens, très concrets, qui rentrent dans la vie quotidienne de tout un chacun. Quand il est question de mobilité, ben, en fait, pour les enfants, ça se traduit finalement par une façon de se déplacer dans les histoires où vous avez des personnages, les héros sont des enfants, bien sûr, à chaque fois, et ils utilisent un réseau de pistes cyclables qui a été élaboré. Il y a des sujets de biodiversité qui se mettent matérialise très concrètement par le fait de sauver un animal qui rencontre des difficultés. Le sujet de l'éco-construction, voilà, qui peut paraître là aussi un peu technique, eh ben, il est finalement, il se retrouve dans les histoires avec la fabrication de constructions en bois qu'on va du coup retrouver dans l'histoire. Le sujet de la cohésion se manifeste avec justement l'aide à une personne âgée sur comment on accède à la santé, comment on se soigne, et donc finalement ça a été tout l'intérêt de ce processus d'imagination des histoires, c'est que finalement ces thématiques, elles veulent bien dire quelque chose et elles se traduisent dans des histoires imaginées par des enfants.
Alors comment la rédaction de ces histoires imaginées s'est organisée? On imagine qu'ils ont été chapeautés par quelqu'un qui a déjà des talents d'écriture.
C'est ça. Alors on a fait appel à une auteure jeunesse. Alors, qui ne connaissait absolument pas nos sujets non plus, hein. D'ailleurs, je pense que ça a été une vraie découverte mutuelle, hein. Il a fallu qu'elle se renseigne. Donc, c'est Angélique Villeneuve qui a déjà publié de nombreux ouvrages et qui a eu des prix littéraires, hein. Donc, on va dire une professionnelle de l'écriture, mais certainement pas une professionnelle de l'aménagement. Ce qui était aussi intéressant pour nous, hein, parce que il s'agit bien de faire comprendre notre métier à des gens qui n'y connaissent rien, donc y compris finalement l'auteur Angélique Villeneuve. Et donc on est allé, mon adjoint et moi-même, on est allé dans les classes concernées, j'allais dire faire un peu la séance inaugurale, expliquer notre métier, expliquer ce que c'était que nos projets. À chaque fois aussi avec les enseignants, les enfants, je dirais, avaient travaillé les sujets, hein, quelque part, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est que la fabrication d'une ville, quels sont les différents enjeux. Et puis donc Angélique Villeneuve a animé avec eux, de manière régulière, des ateliers créatifs, en fait, des séances de travail pendant lesquelles ils ont du coup imaginé des histoires en rapport avec justement les défis. Alors c'était un peu le cahier des charges, donc dans chacune des classes, il y avait au moins deux défis qui s'intégraient à l'histoire. Et comment, sur ces thèmes-là, imaginer une histoire. Donc, ils ont imaginé les personnages, ils ont imaginé ce qui allait se passer, quoi. Donc, là, je... Vraiment, à
oui, voilà. Après, ils ont fait leurs petites histoires, quoi.
Mais alors, finalement... Ils ont fabriqué le synopsis et ensuite, elle a écrit. Ouais.
Finalement, vous dites que c'est quand même une opération stratégique. Je vais vous parler de stratégie. Quel est le but derrière cette opération? À qui s'adresse ce recueil?
Oui, plusieurs points intéressants là-dessus. Nous, on est un opérateur territorial. Hein, on intervient sur un territoire déterminé et on considère que c'est important d'avoir ce lien avec le territoire qui se matérialise par des actions de ce genre. C'est précisément, c'est pas on construit un quartier et on s'en va. On est durablement présent sur le territoire. On a des actions qui se mènent. Le PA a bientôt 50 ans, hein, donc qui marque durablement le territoire. Et donc c'est très important de s'inscrire dans ce contexte et de pouvoir expliquer d'une façon un peu différente, hein, mais de pouvoir expliquer ce qu'on fait, quels sont nos enjeux et comment ça se matérialise dans la vie quotidienne. Donc ça, c'était vraiment notre point de départ. J'y ajoute un autre élément intéressant quand même, c'est que donc nous, ça nous apporte aussi d'échanger avec les enfants, parce que finalement, quand vous avez une classe en face de vous, elle vous pose des questions très très concrètes sur le sens de ce qui est fait, et je trouve que c'est vraiment une bonne façon de se rappeler nos objectifs.
Dernière question, comment on se le procure ce recueil si on a envie de le lire?
Alors, il faut demander, là, pour vous, il faut demander à la direction de la communication d'Épamarne. Il est distribué, ce livre, dans toutes les écoles du territoire, mais aussi dans les médiathèques et bibliothèques du territoire.
Maintenant, voilà, on sait où aller comme ça.
1000 exemplaires, voilà.
Très bien.
1000 exemplaires, donc dans une des communes du territoire d'intervention d'Épamarne et Pas-France.
Très bien, merci Laurent Girometti, je le rappelle, vous êtes directeur général d'Épamarne et d'Épafrance.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Les banques qui ne respecteront pas plus les règles fixées maintenant avec des préconisations du HCSF d'accès au crédit se verront bientôt sanctionnés, ce qui va contraindre certainement plus de ménages à envisager de façon un peu plus circonspecte leur accès au crédit. On écoute le reportage de notre journaliste Vincent Favreau.
C'est une histoire en plusieurs épisodes que jouent les autorités avec les établissements bancaires sur les conditions d'accès au crédit immobilier. Dès cet été, et c'est la nouveauté, les banques qui ne respectent pas les directives des autorités sur les conditions d'accès au crédit se verront sanctionnées. Les règles édictées vont devenir juridiquement contraignantes, nous annonce nos confrères du Figaro Immobilier. Concrètement, il faut revenir à la première partie de l'histoire pour bien comprendre. En 2019, pour détendre les marchés qui s'emballent et mettre au pas les banques qui prêtaient à tout va, des recommandations sont données aux banques: ne pas prêter au-delà de 25 ans et avec un taux d'endettement de 33% maximum par dossier. Des recommandations dictées par le Haut Conseil de stabilité financière, un organisme présidé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et qui donne les règles à suivre au marché bancaire en France. Desserrement de la vis en janvier dernier avec un assouplissement des mesures, 35% de taux d'endettement et un emprunt qui peut atteindre 27 ans. Aujourd'hui et 6 mois plus tard, pas de nouvelle évolution mais bel et bien une traduction juridique des recommandations. Dès cet été, des normes contraignantes vont venir cadrer les règles car les banques ont le droit de déroger à hauteur de 20% des crédits à ces recommandations et donc de dépasser les critères imposés, ce qui peut les aider sur des profils d'emprunteurs plutôt bons. C'est ce qui se passe, des ménages avec des revenus confortables et des gestions bancaires irréprochables sont souvent les profils qui permettent un dépassement. Il va falloir dès la rentrée que les banques gardent une bonne mesure de ces dépassements. Le Haut Conseil de stabilité financière ne semble pas prêt à remettre un coup de pression mais souhaite quand même contrôler les octrois de crédit immobilier.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Allô Radio Immo, c'est vous les journalistes, c'est vous qui posez vos questions. Pour y répondre, les meilleurs experts, agents immobiliers, assureurs, avocats, comment acheter sa maison au meilleur prix? Comment négocier le prix d'un loyer avec son propriétaire? Comment ne pas se faire arnaquer par un artisan peu scrupuleux? Les experts d'Allo Radio Immo vous répondent chaque vendredi à 9h sur Radio Immo. Alors, à vendredi!
Meilleur bien. Le réseau humain digital et équitable constitué uniquement de conseillers immobiliers passionnés, expérimentés et motivés. Et en plus, 100% de nos agents gagnent 100% de commission sur toutes leurs ventes. Ils sont nombreux à avoir rejoint l'aventure. Alors, pourquoi pas vous ? Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Il est 7h15, Johanna Zilberstein.
Alors que la France est à la traîne concernant l'énergie solaire, Audrey Zermati, la directrice stratégique du groupe EFI, le spécialiste de la rénovation énergétique, dévoile la nouvelle solution pour permettre aux foyers de produire une partie de l'électricité qu'ils consomment grâce au soleil. Elle a répondu aux questions de Bérénice Deville.
Bonjour Audrey Zermati, vous êtes directrice stratégie pour l'entreprise EFI, entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement EFI ?
Alors EFI, c'est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique auprès des particuliers. On existe depuis un peu plus de 12 ans maintenant et on propose à nos clients de les accompagner sur l'ensemble de leurs travaux de rénovation énergétique, les systèmes de chauffage, l'isolation et puis les panneaux photovoltaïque, l'autoconsommation solaire.
Et justement, on va en parler, puisque cette semaine, c'était le 21 juin, le solstice d'été, et vous avez dévoilé une nouvelle solution pour permettre aux familles de produire une partie de l'électricité qu'elles consomment. Alors, comment ça marche ?
Alors, aujourd'hui, comme toutes les offres EFI, les particuliers qui souhaitent réaliser de l'autoconsommation solaire vont sur nos sites, remplissent un formulaire, ils sont rappelés par un conseiller qui leur explique un peu le projet, et c'est un projet clé en main. Et c'est ça un peu la nouveauté et l'innovation de notre solution. C'est la volonté de s'adresser à tout le monde de manière simple pour développer le solaire en France, les panneaux solaires en France sur les maisons individuelles. Et donc, le particulier est accompagné de A à Z. On garantit à la fois le produit, que les panneaux sont garantis 25 ans. On adosse systématiquement une garantie main-d'œuvre et déplacement de 5 ans. Et évidemment, on garantit aussi, et ça c'est assez inédit, la production d'énergie sur 5 ans. On s'engage sur la production d'énergie qui sera délivrée par les panneaux solaires sur 5 ans.
Justement, juste par rapport à ça, en termes d'économie, est-ce que c'est vraiment remarquable ?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on a vu sur la centaine de clients qu'on a équipés dans la dernière année, on voit qu'on a des gains d'économie de 40% pour une maison à peu près de 100 mètres carrés. Donc, vous pouvez couvrir votre consommation jusqu'à 40% grâce à des panneaux photovoltaïques. Donc, effectivement, c'est aujourd'hui la garantie qu'on propose initialement et sur 5 ans a des effets extrêmement positifs sur les 100 premiers chantiers qu'on a réalisés.
Et par exemple, une question qui me vient, une famille qui habite dans le nord de la France, qui est quand même moins ensoleillée que le sud, est-ce que ça marche aussi ?
Alors justement, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que ce n'est pas forcément les régions les plus ensoleillées qui sont aujourd'hui les plus équipées en panneaux solaires. Évidemment, et ça c'est des idées un peu reçues, de se dire que le panneau solaire ne produise que dans les parties, les régions ensoleillées. Aujourd'hui, les familles qui sont équipées en panneaux solaires se trouvent sur toute la France et on peut équiper tous les toits de France, en tout cas tous les toits qui ont où il y a une faisabilité pour installer du solaire, il n'y a pas de contre-indication par rapport au niveau d'ensoleillement. Par contre, évidemment que la production ne sera pas forcément la même pour une maison qui se trouve dans le nord de la France et dont la toiture est orientée nord par rapport à un pavillon qui se trouve dans le Vaucluse et dont les panneaux vont être orientés vers le sud. Donc, il n'y a pas de contre-indication à installer des panneaux solaires, la production ne sera pas forcément la même.
D'accord, mais tout le monde est gagnant au final.
Tout le monde peut installer effectivement des panneaux solaires et tout le monde peut couvrir une partie de sa consommation grâce à sa production solaire.
Très bien. La France, c'est seulement le 4e pays d'Europe équipé de panneaux photovoltaïques. On est un peu en retard.
Oui, tout à fait. Et on est derrière notamment l'Allemagne qui est qui a fortement développé l'autoconsommation solaire. C'est une volonté politique qui doit booster la volonté d'installer des panneaux, puisque là aussi, par rapport à l'ensoleillement, on est quand même un des pays les plus ensoleillés d'Europe. Et évidemment, oui, vous le savez bien, on est plus ensoleillé que l'Allemagne. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir du soleil pour avoir des panneaux installés. Il faut vraiment une volonté politique. Et c'est aussi pour ça qu'on lance cette offre de manière à démocratiser le solaire, de solaire en France et à montrer aux autorités qu'il y a une vraie attente des particuliers sur ce type d'installation. Mmh. Et il y a encore des freins à lever, notamment des freins financiers. Que nous, on a une offre extrêmement attractive aujourd'hui qui est un peu moins de 7000 euros pour développer un panneau solaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres opérations, on est sur des travaux qui sont peu aidés par le gouvernement. Et si on regarde par rapport à toutes les aides qui existent dans la rénovation énergétique, où nous sommes aussi actifs ailleurs, on voit qu'en comparaison, aujourd'hui, le solaire est relativement peu aidé si on compare à d'autres pays, et notamment l'Allemagne. Malgré tout, voilà, aujourd'hui, s'offrir des panneaux solaires, ça peut rester accessible. Nous, c'est une offre qu'on décline avec des mensualités. Donc, on est à partir de 49 euros par mois sur 180 mois. C'est aussi l'idée à la fois de rendre les choses simples, accompagner du début à la fin pour toutes les démarches administratives, mais aussi rendre accessible à travers un prix et des mensualités qui peuvent être vécues comme un loyer à partir de 49 euros par mois.
Très bien, merci beaucoup Audrey Zermati, directrice stratégie EFI.
Merci beaucoup à vous.
Et cette interview est à retrouver en podcast.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
7h20 dans le Mac de l'Immo.
Oui, plus d'un jeune Français sur deux, sachez-le, veut vivre à Paris, voilà. Et 65% d'entre eux imaginent également vivre dans une autre métropole, selon une étude menée par OpinionWay pour Virgile, une chronique par Elodie Rabel.
Depuis la crise sanitaire et ses confinements successifs, l'affaire semblait entendue. Cet épisode allait marquer la décrue des grands centres urbains au profit des campagnes, des villes moyennes et des périphéries. Alors oui, c'est la ruée vers les résidences secondaires et autres maisons de campagne. Mais la question qu'il faut se poser, c'est... pour qui ? Eh bien, une petite part de la population, finalement. Quasi la moitié des moins de 35 ans veulent vivre dans la capitale, une part qui monte à 65% quand il s'agit de vivre dans une des grandes métropoles du pays. Oui, les jeunes veulent vivre en ville, là où ils peuvent trouver de bonnes opportunités professionnelles, où ils peuvent aller dans les bars et les restaurants. En amour, on ne compte pas, mais voici un chiffre. 81% parmi les habitants de villes de plus de 100 000 habitants se déclarent satisfaits de leur cadre de vie. Au final, seuls 16% des jeunes urbains de moins de 35 ans déclarent que vivre dans une zone plus rurale est une option qui les attire beaucoup. Et si on est propriétaire, le bonheur semble total.
Le Mac de l'Immo, l'emploi dans l'Immo, Aurélie Dantèze.
C'est l'heure de retrouver notre partenaire Recrutimo pour découvrir de nouvelles annonces d'emploi parues cette semaine. Et pour cela, on retrouve comme chaque vendredi Aurélie Dantèze. Elle est responsable de l'acquisition de talents chez Recrutimo. Bonjour Aurélie.
Bonjour Johanna et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux annonces parmi les offres d'emploi que nous avons sur Recrutimo.com. La première, vous êtes commercial, vous avez au moins un an d'expérience dans l'immobilier, vous aimez les défis. L'agence des rêves, située à Romainville dans le 93, propose un poste d'agent commercial ou de salarié en CDI. La deuxième, côté particulier au Vésiné dans le 78, ouvre ses portes mi-septembre et recherche des négociateurs et des négociatrices en immobilier.
Et Aurélie, vous êtes également venue avec vos conseils pour les recruteurs et pour les candidats.
Mon conseil pour les recruteurs, il est important de travailler l'attractivité de votre marque. Pour cela, aux yeux des candidats, il faut être plus compétitif et plus séduisant, surtout en manière de rémunération. Dans le secteur de la transaction, les règles ont été modifiées par l'émergence des modèles de réseau de mandataires. Les agences doivent basculer sur un modèle salarial et se séparer des commerciaux les moins performants. Et pour les candidats, prenez le temps de bien rédiger votre CV. C'est la première impression que vous donnez aux recruteurs. Indiquez bien vos expériences et les tâches que vous avez effectuées. Vous pouvez retrouver toutes nos annonces et nos conseils sur recrutimo.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.
Et bien voilà, tout est dit, à la semaine prochaine et bonne journée à vous Aurélie. On vous retrouve vendredi prochain avec de nouvelles annonces et de nouveaux conseils.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau. Je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens mon laisse. Le souvenir émus de ton corps nu.
Je sais pas ce que vous en pensez, Sylvain, mais je trouve que ça sent l'été, moi, cette chanson. C'était Clara Luciani, ça s'appelle Le Reste.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
7h26 sur Radio Immo.
Alors, il est 7h26 après des mois de confinement et de télétravail. Sommes-nous toujours prêts à reprendre le chemin du bureau? C'est une question que l'on a posée à Cyril Gonzalez-Rocher, le président de Transactif Immobilier, qui va donner son avis assez tranché d'ailleurs, basé sur ce qu'il observe dans son entreprise et chez ses clients. Il explique également ce qui pourrait lever les freins pour transformer davantage de bureaux en logements. Il était au micro de Fabrice Coustet.
Cyril Gonzalez-Rocher, bonjour. Vous êtes président de Transactif Immobilier. Avec vous, on parle de l'avenir du télétravail. Alors, on voit qu'on est en pleine mutation entre ceux qui veulent retourner au travail, ceux qui ne veulent pas encore y aller. Et vous, d'après ce que vous voyez sur le terrain, ce que vous observez, eh bien, on pourrait ne pas tous reprendre le chemin du bureau.
Je pense qu'il y a des tendances de fond qui s'inscrivent. Le premier témoin, c'est nos propres salariés. Hein. Si vous posez la question, on l'a fait sur les 5 derniers nouveaux embauchés de l'an passé. Quel est le rythme idéal en sortie de Covid? Est-ce que c'est mieux d'être à 100% au travail, de mixer les deux sur des métiers commerciaux? Les 5, même catégorie d'âge, 25-35, un mix des deux. Donc une forme de liberté donnée aux salariés, une forme de responsabilisation aussi, et un rapport à l'entreprise qui est très différent. J'ai aussi la chance de travailler avec un organisme d'État assez puissant, les caisses primaires d'assurance maladie. Je crois que c'est 95% de la population interrogée sur 170 000 salariés qui disaient que faire même du full télétravail, c'était envisageable pour eux. Donc il y a nécessairement des tendances de fond qui vont s'inscrire dans notre paysage de demain. Et encore plus, je crois, avec l'échéance qui arrive en mai prochain, les présidentielles, ça va être un vrai sujet. On a un changement de rapport au travail, changement du rapport à l'entreprise. Un degré de confiance, à mon avis, qui s'est accru pour les entreprises qui ont pu travailler pendant la période de confinement, et notamment celle de l'an passé, où on était, pour le coup, en 100% télétravail, et tous. On voit, en fait, que la responsabilisation du salarié entraîne, de toute façon, un rapport différent. Et ce que je constate aussi, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais un salarié mauvais au bureau, il est mauvais en télétravail. Un bon en télétravail, il est bon en télétravail. En fait, on n'a pas de changement. Bien évidemment qu'il y a des choses plus laborieuses en télétravail, comme d'autres qui sont accélérées. On gagne du temps, on fait des réunions à distance, on peut se voir plus souvent avec les clients. Le rapport humain restera. Mais je crois que la tendance de fond, c'est que le télétravail va s'inscrire dans les conventions collectives, à mon sens, et très rapidement.
Bon, réponse à la rentrée, on verra effectivement comment ça se passe. Hein. Grosse négociation en perspective du côté des RH, des syndicats, etc. Une autre question concernant la transformation du bureau en logement. Là aussi, c'est une tendance de fond, on sait qu'on manque de logement. Est-ce que c'est une bonne solution, justement, si ces bureaux sont, à l'avenir, moins occupés?
Alors, il y a effectivement ce phénomène-là, hein, l'occupation demain du logement. Les entreprises l'ont anticipé, hein, moins de mètres carrés. Ils mettent à disposition des mètres carrés pour développer le bien-être dans les entreprises. Et ça s'est accéléré, là, en sortie de confinement. Alors, la transformation de bureau en logement, elle est d'un constat simple. J'ai eu de nombreux mètres carrés inutilisés avant le Covid, notamment dans les métropoles et en première couronne. Qu'est-ce qu'on fait de ces immeubles? Il y a en fait une dimension économique. Là, le politique s'en est emparé. Anne Hidalgo l'a crié sur tous les toits qu'il fallait transformer les bureaux en logements. Quand le politique s'en empare, c'est qu'on a déjà fait des choses, mais qu'il y a des freins. Et les freins, ils sont purement financiers. Il y a deux raisons au fait que le législateur souhaite qu'on transforme du bureau en logement. Il y a la partie, bien évidemment, écologique, parce que c'est moins polluant de transformer un immeuble de bureau en logement que de construire un nouvel immeuble. Et ça, ce rapport existe et il a été fait, je crois, à l'initiative du gouvernement. Et enfin, parce que aller chercher un permis de transformation, c'est plus simple et c'est moins le parcours du combattant qu'aller chercher un foncier, le transformer, aller chercher un permis, construire, livrer. On sait que c'est des cycles de 3 à 4 ans. Là, on raccourcit, on crée du logement plus rapidement. Je crois que c'est assez vertueux. Maintenant, la dimension économique, on sait que le coût de construction, le coût de transformation peut être parfois plus élevé que le coût de construction. Et c'est ce vers quoi on doit tendre, c'est rationaliser en fait les prix de sortie des bureaux. Et ça, l'enjeu, il est côté propriétaire et, à mon avis, un petit peu État, avec une fiscalité qui va devoir évoluer pour donner envie en fait aux investisseurs détenant des immeubles de bureaux de pouvoir les vendre pour les transformer en logement.
Cyril González-Rocher, merci.
Merci à vous.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Là, il est 7h31, Johanna Silberstein.
On va maintenant parler d'un décret publié récemment qui permet aux mairies d'encadrer beaucoup plus fortement les transformations de commerce en meublé touristique. On voit ça avec Vincent Favero.
Il sera désormais possible pour les mairies d'autoriser ou non la transformation d'un commerce en habitation pour meublés touristiques. Un décret du ministère de la Transition écologique vient de paraître et vise à protéger l'environnement urbain et à préserver l'équilibre entre emploi, habitat, commerce et services sur les territoires. Concrètement, à partir du 1er juillet, les villes vont pouvoir soumettre à une autorisation la réhabilitation d'un commerce pour devenir une location meublée touristique. Car depuis des mois maintenant, les grandes villes sont en souffrance de ces transformations des centres urbains. Les mots ne sont jamais assez forts pour parler du fléau des meublés touristiques sur les grandes métropoles. Elles deviennent pour certains des villes musées, pour les voisins des endroits invivables, tant le bruit des roulettes de valises sur la chaussée est énervant et synonyme des meublés touristiques. Désormais, les villes pourront encadrer donc ces transformations. C'est un pas en avant décisif pour Yann Brossat, l'adjoint au logement de la maire de Paris, qui dans les colonnes du Parisien se félicite de cette évolution législative attendue depuis 2 ans maintenant et qui vient combler un manque, une niche où les autorités municipales étaient démunies. Les sites de meublés touristiques n'ont pas encore réagi à cette nouvelle. Les autorités, elles, disent vouloir ainsi préserver les centres-villes de transformation trop rapide. La ville de Paris, une des premières touchées par ce phénomène, souhaite pouvoir faire entrer en vigueur cette nouvelle règle début 2022.
Le Mac de Limo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Immo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Axéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Il est bientôt 7h35, Johanna.
Vous le savez, on l'a dit, on l'a redit, le marché immobilier est reparti très fort hein, dès la sortie du premier confinement en Bretagne, avec un volume des transactions qui a augmenté de 25%. Alors, quelles sont les zones les plus prisées? Quel est le profil des acquéreurs et que recherchent-ils? Des questions auxquelles répond Maître Olivier Arens. Il est notaire dans le Morbihan et président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rennes. Et il est au micro de Bérénice Deville.
Maître Olivier Arens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Guéméné-sur-Scorff dans le Morbihan, expert immobilier et surtout président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rennes. Alors on va parler ensemble de la ruée vers l'ouest. Est-ce qu'elle a eu lieu? Comment l'expliquer? Parce que depuis plusieurs mois, vous les notaires, hein, comme l'ensemble des professionnels, vous constatez un emballement du marché immobilier en Bretagne assez inédit. Alors comment se manifeste-t-il déjà?
Alors cet emballement, effectivement, s'est manifesté dès la sortie du premier confinement. On avait assez peur des conséquences sur le secteur de l'immobilier lors du premier confinement, hein, comme, ouais. Comme beaucoup de secteurs professionnels. Et nos craintes ont été assez vite oubliées dans la mesure où le marché immobilier est reparti très très fort dès la sortie du premier confinement. Alors, il se traduit là sur un an par un volume de transactions qui est en nette hausse hein, sur, oui. Sur un an lycée et qui est de l'ordre, on va dire, en moyenne de 25% hein, de plus. Alors, on a,
sur toute la Bretagne.
Sur toute la Bretagne, 25% sur les maisons, les terrains en moyenne 46% d'augmentation sur les volumes de vente des terrains, on voyait que c'est quelque chose de vraiment très très important.
Alors, qui sont les acquéreurs? Est-ce que ce sont des locaux, des Bretons, des Franciliens ou même des gens un peu plus éloignés du Sud, par exemple?
Alors, c'est là où l'analyse des chiffres que l'on vient de réaliser nous montre que, contrairement aux ressentis, les Franciliens, en fait, n'augmentent pas ou très très peu, en tout cas, sur les grandes villes, sur les grandes métropoles, Rennes, Nantes, Vannes, et sur le littoral, ils augmentent pas ou peu leur participation, en fait, dans les acquisitions, dans le volume des acquisitions immobilières. Ils représentent, alors, sur le littoral, ils représentent quand même, suivant les secteurs, hein, c'est assez diversifié, mais on va dire, si on prend par exemple le littoral sud, Morbihan pour celui que je connais, on est à peu près à entre 15 et 20% tout le temps, jusqu'à 25% dans certains secteurs. Donc c'est important, bien sûr, comme marché, mais le volume des transactions augmente, mais le pourcentage n'augmente pas. Hein. Donc ça n'est pas eux qui ont une influence directe sur le marché. Par contre, les grands gagnants de cette augmentation des volumes des transactions, ce sont les bassins ruraux aujourd'hui, parce que les bassins ruraux, eux, voient la participation des Franciliens dans les acquisitions immobilières augmenter d'environ 4%, ce qui n'est pas neutre par rapport à la clientèle et au profil de clients qu'on pouvait avoir sur les bassins ruraux antérieurement.
D'accord. Et le type de biens qui sont achetés, qu'est-ce que ça? C'est des résidences principales, des résidences secondaires?
Alors, plutôt un petit peu de tout. Hein. On a des résidences secondaires, mais on sent que, des résidences secondaires, des résidences principales, ça dépend des secteurs. On va dire que là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de résidences principales, puisqu'on a un réinvestissement, un recentrage des locaux, notamment sur les acquisitions. On va parler surtout des maisons qui constituent le cœur, en fait, de l'immobilier traditionnel breton. On a un recentrage des locaux pour acquérir des résidences principales et d'y mettre plus de moyens et surtout d'avoir notamment des pièces dédiées aussi au télétravail, hein, puisque les habitudes de travail ont changé très très vite dans l'espace d'un an, et ils vont se modifier durablement, je pense, dans les années à venir. Et donc c'est la recherche toujours de la pièce supplémentaire ou de l'espace de vie supplémentaire pour pouvoir travailler de chez soi.
Du coup, j'imagine que les acquéreurs sont actifs. Ils ont quel âge en moyenne?
Alors, c'est une bonne question. Les acquéreurs, en fait, la moyenne d'âge a tendance à se baisser, puisque depuis un an, les retraités ne sont plus aussi actifs sur le marché. Hein. Ils sont en repli. Alors, les moyennes sont un petit peu divers suivant les secteurs. Vous avez des secteurs où on est à 30 ans pour l'acquisition d'une résidence principale, surtout sur les bassins ruraux, où en fait on achète rapidement sa résidence principale parce que les prix sont extrêmement attractifs. La moyenne est plus élevée, bien entendu, sur le littoral, où là il s'agit d'abord ou de résidence secondaire, ou s'il s'agit d'une résidence principale, c'est déjà une deuxième ou une troisième acquisition souvent qui permet de se porter acquéreur sur ces secteurs-là.
Eh bien, merci beaucoup Maître pour toutes ces précisions sur la ruée vers l'ouest.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bonjour, toujours dans votre Mac de l'Immo, 7h41, Johanna Zilberstein.
Alors, sont-ils plus âgés au sud-est, plus jeunes au nord? Ont-ils plus de revenus en Ile-de-France? Je parle bien sûr des différents acquéreurs immobiliers. Le courtier Meilleur Taux présente son étude des profils types des emprunteurs région par région. Et c'est Vincent Favero qui nous la détaille.
Au-delà des considérations nationales, Meilleur Taux vient de publier une étude détaillée par nos confrères de Capital.fr qui prend région par région les profils des acquéreurs emprunteurs. Qui emprunte le plus? C'est en Île-de-France, en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur que le montant d'emprunt moyen est le plus haut, 229 202 euros en région PACA, 251 994 euros en Corse et 298 187 euros en Île-de-France. Attention, il s'agit bien du montant d'emprunt et non du montant de l'achat du bien. Concernant les régions les plus calmes niveau montant d'emprunt, c'est en Bourgogne-Franche-Comté que le crédit immobilier est le plus faible, 160 997 euros d'après l'étude. Autre question, quel est le montant moyen des revenus avant impôt? Là aussi, quelques différences notables. L'Île-de-France tient le haut du tableau. Les acquéreurs affichent en moyenne 6 017 euros par mois net avant impôt, 5 146 euros net en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 4 444 euros en Auvergne-Rhône-Alpes. A l'inverse, la Bourgogne-Franche-Comté, la région Grand Est et le Centre-Val de Loire affichent en bas du tableau des revenus par emprunteur de moins de 4000 euros par mois, autour de 3900 euros pour la région Grand Est et le Centre-Val de Loire, 3700 euros même pour la Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, du côté de l'âge des personnes étudiées par meilleur agent dans ce sondage, on retrouve les emprunteurs les plus âgés en région PACA, en moyenne 38 ans et demi, 37,8 ans en région Occitanie et 37,7 en Bretagne. Les plus jeunes emprunteurs se trouvent dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et Normandie, 35,6 ans en moyenne. À savoir, au niveau national, l'étude de meilleur agent montre des emprunteurs qui ont en moyenne 37 ans, empruntent 223 148 euros en moyenne et ont par mois 4 351 euros de revenus nets avant impôt. Tous les détails de cette étude à retrouver sur le site de Meilleur Agent et aussi sur capital.fr. On vous met le lien dans le podcast de cette chronique sur le site et l'appli de Radio Immo.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
The pain you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Though you hurt me so, now I'm gonna pack my things and go. Tainted love.
C'est bon ça, c'est très très bon. C'était Soft Cell avec Tainted Love.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, Jean-Michel Royot.
Et ce matin, comme tous les vendredis, on est ravis de recevoir dans ce studio Jean-Michel Royot qui vient nous présenter sa start-up de la semaine. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Joanna.
Vous nous venez en forme ce matin?
Écoutez, en pleine forme comme tous les vendredis matins à vos côtés.
qu'est-ce que vous nous avez prévu ce matin?
Écoutez, ce matin j'ai prévu de vous faire visiter l'Alsace avec la découverte d'une belle start-up qui est représentée aujourd'hui par sa fondatrice Marie Mahé, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Marie.
Bonjour Jean-Michel et bonjour Johanna. Merci de m'accueillir dans votre émission.
Merci Marie. Donc j'ai découvert cette start-up qui va évidemment vous présenter toute sa valeur ajoutée dans l'émission. Et comme vous le savez Marie, la première question, puisque maintenant c'est un rituel, hein, la première question que je vais vous poser est la suivante. Quelle est la promesse de Kissik ?
Alors, la promesse de Kissik, en fait, est de permettre à tous les salariés et indépendants en mobilité professionnelle de trouver rapidement un logement pour sécuriser leur emploi, leur mission ou leur formation.
Trouver rapidement un logement face à une opportunité d'emploi, c'est bien ça votre promesse ?
C'est exactement ça ma promesse.
Bon, Johanna, on a peut-être envie d'en savoir un petit peu plus.
Eh oui, évidemment.
On lui donne une minute à Marie.
Pas plus. Hein.
Allez, pas plus. Jason, top chrono. À vous Marie.
Alors, face à la problématique effectivement des candidats qui refusent souvent un poste faute de trouver un logement facilement, nous avons développé Kissik. Alors Kissik est une plateforme de réservation qui est dédiée uniquement aux professionnels en mobilité. Cette plateforme permet à tous les professionnels en contrat court, CDD, période d'essai, stage, alternance ou en mission, de trouver en quelques clics facilement un logement là où ils en ont besoin pour la durée nécessaire. Alors, qu'est-ce que Kissik ? Kissik, c'est plus de 150 000 logements partout en France de type studio, T1, T2, colocation. Une réservation instantanée, sans dossier ni garant. Des possibilités de location allant d'une nuit à plus d'un an, sans formalité supplémentaire. Une garantie impayée et dégradation. Et une géolocalisation des logements autour de la mission ou de la formation, limitant les déplacements emploi-logement. En clair, si demain vous êtes en mobilité, le sujet du logement est un point majeur pour répondre à votre opportunité professionnelle. Ici, vous apporte une réponse pratique, rapide et efficace.
Merci Marie. Un peu débordé, mais on va dire que c'est bien. Hein. Bon, on a bien compris. Donc, les salariés en mobilité professionnelle qui vont rechercher un logement pour quelques jours, quelques mois et même plus, il faut passer par Kissik, sans dossier, sans garant. Donc, on comprend que c'est très rapide avec beaucoup de logements, 150 000, vous disiez, sur toute la France. Donc, on imagine des grandes villes, mais aussi des villes moyennes qui retrouvent des couleurs en ce moment. C'est très bien. Qui vous fait confiance aujourd'hui ? Je crois comprendre que Kissik existe depuis 2 ans et demi, donc vous avez sans doute scellé des partenariats.
En effet, nous avons aujourd'hui 2 typologies de partenaires. Les entreprises, bien sûr, qui labellisent la plateforme pour leurs salariés et bénéficient d'une marque employeur qui est augmentée, telles que les entreprises de l'intérim, on va citer Synergy, Manpower, Crit, qui ont de forts besoins de mobilité salariale, mais également les ETI telles que SS2I ou encore les centres de formation tels que les Compagnons du Devoir. Mais également avec les fournisseurs de séjour professionnels tels que B&B Hotel, Cozy Apart Hotel, Apart City, pour ne citer qu'eux, mais également de nombreux particuliers optimisant via Kissik la location de leurs biens avec une garantie apportée par l'emploi.
C'est parfait. Et comment on fait pour vous contacter ?
Alors, vous pouvez nous contacter et vous inscrire aussi, bien sûr, selon vos besoins, sur www.kissik.com. kissik.com et bien évidemment je reste à votre écoute et à l'écoute des auditeurs sur ma page LinkedIn Marie Maëlle.
Johanna, on a droit à une dernière question ?
On a le droit à une dernière question et j'en aurais même une petite subsidiaire pour alors, Marie après.
Alors deux petites questions. Marie, dans 5 ans, Kissik, ça ressemble à quoi ?
Ben, notre objectif bien évidemment c'est de grandir et on souhaite que Kissik soit la plateforme de référence en Europe des professionnels, salariés et indépendants en mobilité. Donc, pour rappel, aujourd'hui les alternants et les stagiaires sont des professionnels également. Ils peuvent bénéficier des services de Kissik. Nous sommes d'ailleurs d'ores et déjà très sollicités pour la rentrée par ces derniers.
À vous Johanna.
Marie, c'est très mignon comme nom Kissik, ça vient d'où ?
Alors, ici, en fait, qui c'est la clé qui facilite la recherche en fait, du logement, le logement étant un moyen pour sécuriser l'emploi, la mission ou la formation.
Merci Marie.
Merci Marie, c'était très très bien, très intéressant. Merci Johanna, c'est toujours un plaisir de venir vous voir.
Merci à vous Jean-Michel, et ben on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle start-up, avec grand plaisir.
Également, à très vite.
Le Mac de l'Immo. la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
7h51 sur Radio Immo.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, Joanne, hein, l'ancienne icône du coworking WeWork, qui avait été très largement financée par une banque japonaise qui s'appelle SoftBank, a enregistré en 2020 une perte, et oui, une perte de 3,2 milliards de dollars, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires. Afin de se relancer, WeWork prévoit de s'introduire en bourse, comme quoi on a peur de rien, à l'automne, donc via un mécanisme qui est un peu particulier. Avec ce montage, on est très très loin des 47 milliards de dollars de valorisation avant la crise de WeWork. Et oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. On peut même considérer que parfois, il y a des entreprises qui sont des machines à incinérer des fonds propres. Mais la société reste optimiste à la sortie de sa crise sanitaire. Je vous propose qu'on l'écoute avec une chronique de notre ami Fabrice Coustet.
Pour une entreprise qui a misé tout son modèle économique sur la location de bureaux, l'addition de la crise sanitaire est salée. WeWork a ainsi enregistré une perte de 3,2 milliards de dollars, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires. Selon le Financial Times, le taux d'occupation des bureaux loués par l'entreprise a chuté à 47% fin 2020 contre 72% en début d'année avant le début de la propagation de la Covid-19. Mais l'ancienne icône du coworking fait le pari que les choses vont désormais rapidement s'améliorer avec la fin de la pandémie. Afin de se relancer, WeWork prévoit de s'introduire en bourse à l'automne via un mécanisme un peu particulier. Elle fusionnerait avec un SPAC, une coquille vide déjà cotée l'an dernier, dans le but de réaliser de futures acquisitions. Avec ce montage, on est très loin des 47 milliards de dollars de valorisation avant crise. La valorisation serait divisée par 5 à 9 milliards de dollars seulement, mais permettrait de lever 1 milliard de dollars d'argent frais. De quoi poursuivre sa politique d'expansion. La société exploite aujourd'hui 851 sites qu'elle détient dans 152 villes à travers le monde, mais elle a stoppé net ses investissements, 49 millions de dollars en 2020 contre plus de 2 milliards en 2019. Pour survivre, la société a dû tailler dans le vif, exit le fantasme fondateur Andrew Newman, licenciement des deux tiers des salariés et fermeture d'une centaine de sites. Côté client, les baux sont aujourd'hui beaucoup plus flexibles. On peut ainsi louer son bureau à la journée pour 29 dollars par jour et 10% seulement des abonnements se font au mois le mois contre 100% avant crise. Mais l'entreprise entrevoit un avenir plus serein. Avec la fin de la pandémie et le retour des télétravailleurs, le taux d'occupation remonterait à près de 90% à fin 2022. La société engrangerait alors près de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Si le pari est réussi, c'est que la crise sera définitivement derrière nous. On ne peut que souscrire à cette vision enthousiaste.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
7h54, Sylvain, je vous propose de saluer celui qui vient de nous rejoindre en plateau. C'est notre grand témoin du jour.
Et oui, il est à nous, il est avec nous, il va passer une petite heure avec nous. Alors, un exercice dont il n'a pas forcément l'habitude, parce qu'on va essayer de parler de lui sous un autre angle. Pas sous l'angle du mandat de président de la Fédération française du bâtiment, mais découvrir l'homme qui se cache derrière justement ce mandat. Il est avec nous, c'est Olivier Salleron.
Bonjour.
Comment ça va,
Bonjour.
Olivier ?
Ça va très bien, merci.
On est ravis d'être avec vous. Voilà, l'idée c'est une conversation entre nous, avec un petit café, détente,
okay.
Pour essayer de partager avec tous nos auditeurs des moments sympathiques, mais vous découvrir sous un prisme différent. Je sais que c'est un exercice, vous n'avez pas franchement l'habitude de parler de vous de ce point de vue-là.
Non, pas en ce moment, il y a trop d'actualité sur la conjoncture.
Sûr. Alors bien sûr, nous parlerons largement de votre actualité, bien évidemment, c'est aussi le but. Mais c'est aussi le but d'impacter, d'incarner un petit peu ce que vous faites. Vous avez eu le plaisir d'ailleurs de venir ici dans les studios de Radio Immo pour un grand jury de la presse immobilière. Vous êtes passé par le feu des questions de nos confrères journalistes. On est ravis de vous accueillir, n'est-ce pas, Joanna? Et en plus, vous avez une playlist, moi je dis, avec une playlist comme ça, c'est total respect.
Et oui, mais ça, nos auditeurs vont pouvoir le découvrir hein, jusqu'à 9h, puisque vous le savez maintenant, Olivier, on va quand même rappeler le principe, vous êtes aux commandes hein, de la station pendant une heure, vous avez choisi la musique, on écoutera également des témoignages de vos collègues, de vos amis, de vos proches, on aura également quelques petites surprises, tout ça c'est à venir jusqu'à 9h. On va commencer avec votre premier titre, on démarre bien, puisque vous avez choisi les Daft Punk, Around the World.
C'est bon ça.
On l'écoute et puis on revient juste après. On parlera notamment de ce choix. C'est parti pour le Mac de l'Immo d'Olivier Salleron.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System. Dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.